Bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce journal en langue française et voici les titres. Le Burundi commencera bientôt la transformation sur place des minerais extraits du pays, annonce le chef de l'État Evariste Ndayishimiye ce lundi lors du coup d'envoi de 7 camions contenant 175 tonnes de minerais 3T exportés. Après un peu plus d'une semaine d'interruption, suite à l'incendie de deux bureaux de l'établissement Green Hill International College, les cours ont repris ce lundi. La confiscation des stations-service n'est pas une solution au problème du carburant. La PARSEM propose au gouvernement plutôt de collaborer efficacement avec les pétroliers dans le cadre du partenariat public et privé afin de trouver une solution durable à la pénurie de carburant. Voilà pour les titres. Jean-Marie Mayonga à la présentation, Alphonse Kugimana assure la mise en onde. Bienvenue. Ouvrons cette édition par la page Économie. 7 camions contenant 175 tonnes de minerais 3T ont été exportés ce lundi lors du coup d'envoi donné par le chef de l'État. Le président Evariste Ndayishimiye a annoncé que le Burundi commencera bientôt la transformation sur place des minerais extraits du pays. Concernant l'exportation de l'or, le président Burundi a souligné la nécessité d'assurer une transparence totale dans ce secteur. Mire Kanyang.
C'est dans les enceintes de l'ancienne société de verrerie du Burundi-Verundi où étaient garés ce lundi les 7 camions contenant 25 tonnes chacun des quantités de coltan, de cassitérite et de wolframite dans des fûts, des chiffres fournis par le directeur général de l'Office burundais des minerais OBM. Certains de ces camions portant des écriteaux tels que ce Trevo Mining Company Limited, Vision 4060, site Murehe, étaient présents, notamment le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque centrale et le commissaire général de l'Office burundais des recettes OBR. S'adressant à la presse, le chef de l'État a précisé que ces minerais exportés ce lundi ont plus de valeur sans précision.
Aujourd'hui, c'est la seconde exportation en toute transparence. Cela veut dire que c'est la richesse des Burundais. Même si c'est une société, telle ou telle coopérative qui a exploité, c'est au nom des Burundais et ils exportent à son nom. C'est une très bonne chose car aujourd'hui, nous exportons des minerais d'une grande valeur par rapport à la première exportation, car il y a du coltan, cassitérite et du wolframite.
Le chef de l'État a en outre annoncé des accords de collaboration entre exploitants des minerais et le gouvernement, car il a été constaté, dit-il, que certains exportaient mais ne rapatriaient pas les devises. Il reste toutefois, poursuit-il, l'action de distinguer les minerais, les quantités et la teneur. Le président burundais, se référant sur l'or, a indiqué qu'un suivi des coopératives exploitant ce minerai sera bientôt fait et appelle les Burundais à être vigilants pour qu'il n'y ait plus de fraude de
minerais.
Il y a des minerais qui sont volés parce qu'ils sont chers. L'or en fait partie. Je demande aux Burundais d'être vigilants et qu'il n'y ait plus de fraude. Nous avons constaté que l'or est facilement volé parce qu'il y en a qui volent 10 grammes. Dans l'exploitation de l'or, nous avons une seule société avec des machines et le fait comme il le faut. La production de l'or est mise dans un coffre et on l'ouvre en présence des institutions et la société de Muyinga. Nous avons vu que le sous-sol est riche. Dans plus de 30 communes, il y a de l'or, mais la technique n'est pas au rendez-vous. C'est facile aux exploitants artisanaux de nous tromper sur la production. D'ailleurs, je vais faire une évaluation des coopératives exploitant l'or. Celui qui sait qu'il n'a rien donné, on va le suspendre, car il n'y a pas de valeur ajoutée à continuer l'exploitation sans recette.
Pour rappel, le 7 octobre de cette année, le chef de l'État a lancé officiellement la première exportation de 260 tonnes de minerais de type quartz vert et améthyste à destination de la Chine. Dans le budget général de l'État, exercice en cours, les recettes minières attendues avoisinent 7 milliards et 800 millions de francs burundais.
Mireille Kanyang, page de gouvernance, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLICOM en sigle, estime que la décision de suspendre les frais de mission accordés aux fonctionnaires en mission n'a pas été suffisamment étudiée. Gabriel Fieri, président de l'OLICOM, fonde ses propos sur la mesure qui prévoit la suppression de ces frais pour les missions effectuées dans un rayon de moins de 50 km. Selon lui, cette décision devrait être réexaminée en profondeur et appliquée également aux missions effectuées à l'étranger ainsi qu'à d'autres secteurs où les fonds publics ne sont pas bien suivis. On l'écoute.
Pour l'OLICOM, nous visons deux éléments. Le premier élément, c'est l'efficacité institutionnelle qui vise le résultat d'un travail mieux fait. Ici, je pense que 50 km liés de référence Bujumbura, c'est-à-dire que c'est Abukeye. À Oside, je pense que c'est Verumonge ou Jenda. Si quelqu'un, un fonctionnaire de l'État, on lui donne une mission, je pense qu'il n'est pas d'abord tout près de chez lui pour manger. Donc il doit se déplacer. D'une manière ou d'une autre, il doit être pris en charge. Ça, c'est inévitable. Par contre, pour l'OLICOM, il serait mieux qu'il calcule les frais de déplacement par jour ou par unité. C'est-à-dire, s'il va loger, dormir là-bas ou il va retourner sur Bujumbura ou ailleurs. Par contre, le gouvernement devait prendre une décision de faire une analyse minutieuse, de voter un budget d'austérité, y compris même les frais de mission, en réduisant s'il voit que le budget de fonctionnement est trop costaud, il faut qu'il fasse des mesures qui vont aider d'un côté à rendre facile les agents de l'État qui vont effectuer ces missions, mais aussi à protéger les fonds publics. Je ne vois pas le rendement que le gouvernement va enregistrer s'il donne une mission à son employé qui va monter à l'intérieur sans mettre quelque chose sous la dent. C'est pas possible. Nous recommandons qu'il y ait une étude minutieuse en attendant que les décisions prises soient analysées. Il faut une commission qui va étudier en profondeur la réduction des frais de fonctionnement de l'État. Parce que les frais de mission qui sont donnés, il faut aussi penser. Il faut savoir qu'il y a aussi des frais de mission pour ceux qui voyagent. Il faut que les missions qui sont effectuées à l'extérieur soient des missions réellement, minutieusement étudiées, qui génèrent des résultats que le gouvernement réellement va voir s'il y aura des résultats palpables. Donc, moi, je pense que si réellement le gouvernement a l'objectif de réduire les consommations, il doit regarder à travers les commandes publiques, d'où il doit vraiment minimiser les coûts, non pas seulement à travers cette décision que l'OLICOM trouve injuste, mais à travers le panorama général du budget général de l'État.
Le projet de loi récemment adopté par le Conseil des ministres et qui comprend plusieurs mesures, notamment la suppression des frais de déplacement effectués en dehors du lieu habituel et du travail pour une distance inférieure à 50 km, devrait en premier lieu concerner les hautes autorités, notamment les ministres bénéficiant d'avantages considérables. Jibé Niawa Kira, président de la Confédération des syndicats des travailleurs, estime que cette mesure risque d'aggraver la situation des fonctionnaires déjà confrontés à des salaires modestes et à un coût de la vie élevé. Il demande qu'avant toute mise en application, le gouvernement consulte les syndicats afin de recueillir leurs contributions et avis. Suivez-le.
Ici, comme ailleurs, je sais, dans les pays même européens, quand il faut prendre des mesures d'austérité par rapport à la situation économique qui est très critique, oui, ça se prend et ça commence par l'euro. Évidemment, par l'euro parce que c'est là où il y a beaucoup d'avantages. Au moment où le fonctionnaire moyen ou petit ne peut pas nouer les deux bouts du mois avec le salaire qu'il perçoit mensuellement, je ne pense pas qu'on puisse encore revoir à minimiser ou à supprimer tous les maigres avantages qu'il percevait. Imaginez-vous un atelier qui se tient à Bugarama, d'ici Bugarama, c'est à moins de 50 km. On va passer 3 jours, on va passer 4 jours. Comment est-ce qu'une telle situation va s'appliquer sur ces participants à cet atelier? D'autres peuvent tenir un atelier à Bubanza et passer 4 jours ou 5 jours. Comment est-ce que ça va s'appliquer? J'ose un peu espérer qu'avant de mettre en œuvre, en application cette mesure, qu'il faudra y avoir des textes d'accompagnement. Et dans l'élaboration de ces textes d'accompagnement, il faudra associer ce que représentent les travailleurs, les représentants syndicaux, pour que les mesures prises soient d'application. Sinon, nous restons dans le doute absolu que l'application de cette mesure vient démotiver les fonctionnaires qui, si vous voulez, sont déjà démotivés au regard de la cherté de la vie et par rapport au salaire perçu mensuellement. Je pense qu'il y a des signaux dangereux qui sont déjà là. Quand les directeurs généraux s'en vont dans les missions qui restaient là, quand les enseignants commencent à quitter très nombreux services et s'en vont ailleurs, le souci qui devrait préoccuper le gouvernement devrait être de motiver progressivement, autant que faire se peut, mais ça ne serait pas de supprimer et de démotiver davantage.
Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel.
Radio Isanganiro, le journal continue. L'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par SEM estime que la confiscation des stations-service n'est pas la solution au problème du carburant. Elle propose au gouvernement plutôt de collaborer efficacement avec les pétroliers dans le cadre du partenariat public et privé afin de trouver une solution durable à la pénurie de carburant. L'ODT national de cette organisation réagit après la déclaration du chef de l'État sur son intention de confisquer les stations qui désistent à s'approvisionner à la Sopebu. Faustin Dikoumana demande au gouvernement de convoquer une réunion réunissant toutes les parties concernées par le problème du carburant afin d'examiner ensemble les solutions possibles. Suivez-le.
D'abord, on ne peut pas comprendre cette situation où le carburant serait en abondance, que les détenteurs des stations ne viendraient pas pour chercher ces stations afin de faire le commerce ordinaire et de distribution du carburant parce qu'ils ont investi dans la construction des stations de distribution du carburant quand même pour avoir un profit. On se pose la question, si il y a manque de fonds de roulement au niveau des propriétaires de ces stations de distribution, ils pourraient recourir aux découvertes bancaires ou bien faire louer ces stations. Si le gouvernement devrait faire cette activité en remplaçant les propriétaires de ces stations, on devrait recourir aux partenariats publics privés. C'est un cadre par excellence de collaboration entre le gouvernement et les opérateurs économiques dans la construction des infrastructures ou bien dans la production des biens ou des services nécessaires, vitaux à la population. Même au moment de la récente conférence des partenaires du Burundi, des bailleurs de fonds, au mois de décembre, on a insisté sur le développement du cadre de partenariat public et privé. Parce que ce comportement où l'État veut toujours spolier par force les biens des investisseurs, des opérateurs économiques, sera vraiment handicap l'environnement des affaires dans notre pays. Si on analyse en profondeur le problème lié à la disponibilisation du carburant dans notre pays, on voit toujours que, d'après le discours officiel, on a toujours vu qu'il y a toujours des boucs émissaires, parce qu'on voit que les résultats restent minces, restent mitigés dans ce secteur. On a parlé du carburant disponible à Dar es Salaam, mais qu'on n'a pas la logistique nécessaire pour le transporter jusqu'à Bujumbura. Le gouverneur de la BRB a parlé un jour d'une abondance d'approvisionnement en carburant imminente. On a entendu sans résultat concret. Maintenant, on dit que le carburant est disponible, mais qu'il y a une attitude de réserve, de mauvaise volonté des détenteurs de stations de distribution pour venir acheter le carburant afin de le distribuer aux consommateurs. Je crois qu'on voit qu'il faut plus d'actes que de paroles pour trouver des résultats concrets dans le secteur carburant. Sinon, il faudrait organiser une réunion d'urgence où tous les intervenants, les acteurs, opérateurs économiques, gouvernements, Sopebu, des distributeurs, des acteurs privés dans le secteur, société civile, pour débattre sur ces questions sans faux fuyant afin de trouver une solution concrète et idoine à cette problématique.
Page éducation, reprise des cours à l'école Green Hills International College ce lundi après peu plus d'une semaine d'interruption suite à l'incendie de deux bureaux de l'établissement par un groupe d'élèves insurgés. Cet incendie a détruit divers matériels causant une perte de plus de 89 millions de nos francs. Cependant, 21 élèves présumés auteurs de l'incendie sont toujours en détention au cachot de la police et à Gitega. Le représentant légal de l'école exige que justice soit rendue et que les matériels incendiés soient remboursés. Même son de cloche du côté du commissaire de la police à Gitega qui appelle à ce que les auteurs soient impérativement punis afin de prévenir la propagation de ce type d'insurrection, notamment dans les écoles privées à régime d'internat. Gérard Nibigir.
Vers 2h du matin de la nuit de jeudi à vendredi de la semaine dernière, un groupe d'élèves de l'école Green Hills International College, située dans la ville de Gitega, se sont réveillés et ont incendié le bureau du directeur et le bureau du préfet des études de cette école, brisant ainsi les caméras cachées qui y étaient installées, indique le représentant légal de cette école, Audrey Kendai Chimie. Il ajoute que dès lors, les cours se sont arrêtés et n'ont repris que son lundi. Il précise alors que la valeur du matériel incendié, détruit ou brisé, oscille autour de 89 millions de francs. Quant à lui, le commissaire de police dans l'ancienne province de Gitega, colonel de police Evariste Habogorimana, dit que 25 élèves, dont 13 filles et 12 garçons, ont été arrêtés au cachot du commissariat de la police à Gitega pour des réseaux d'enquête. Il continue que 4 mineurs parmi eux ont été libérés et donc maintenant 21 élèves restent encore au cachot. Le représentant légal de l'école Green Hills International Collège de Gitega demande que justice soit faite et que tous les matériels et objets scolaires incendiés et détruits soient payés. Même son de cloche pour le commissaire de police dans l'ancienne province de Gitega qui demande que les coupables soient sévèrement punis pour prévenir la propagation de tels comportements d'élèves dans des écoles à régime d'internat privé surtout. Il rappelle que l'année dernière, un groupe d'élèves d'une autre école de Gitega, la Gitega International Academy, se sont insurgés et ont détruit des caméras cachées et d'autres objets scolaires et ils pensent que cette école a contaminé cette autre, la Green Hills International College de Gitega. Les deux écoles sont de haut standing et appliquent le programme de cours de Cambridge. Depuis Gitega, Jani Bigira pour la radio Isanganiro.
Quittons la province de Gitega pour nous rendre dans la province de Burunga où certains habitants de la zone Kigwena, commune Rumonge, dans cette province se disent préoccupés par le vol récurrent des régimes de palmiers à huile dans leur palmeraie. Ils demandent l'implication de l'administration communale pour éradiquer ce phénomène. De son côté, Augustin Minani, administrateur communal de Rumonge, estime que l'administration collinaire et zonale peut à elle seule maîtriser cette situation dans les palmeraies surveillées par les veilleurs. Jean-Pierre Misago.
C'est dans certaines sous-collines de la colline Gachacha que le vol de régime de palmiers à huile semble prendre une allure inquiétante selon un habitant de cette colline qui a du coup sollicité l'implication de l'administrateur communal de Rumonge pour que des mesures allant dans le sens de stopper ce phénomène soient prises. Réagissant à propos, Augustin Minani, administrateur communal de Rumonge, renvoie la balle au chef collinaire et zonal de Kigwena, estimant qu'ils en sont eux seuls capables. C'est en effet des palmeraies gardées par des veilleurs et la persistance de ce vol de régime de palmiers est inexplicable, déclare l'administrateur communal de Rumonge, qui exige de l'administration collinaire et zonale un rapport urgent sur les mesures qui auront été prises dans ce sens. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro.
Page sport en bref. Les clubs burundais Aigle Noir et Flambeau du centre qui représentaient le Burundi dans les compétitions internationales organisées par la Confédération africaine de football CAF ont été éliminés ce week-end. Sur le plan national, le championnat de première division Primus League a poursuivi son cours avec la 9e journée marquée par la tenue de sept matchs disputés sur différents terrains à travers le pays. À l'international, l'actualité sportive qui a marqué le week-end en Europe a été le célèbre Clásico espagnol. Le Real Madrid s'est imposé face au FC Barcelone sur un score de 2-1 dans le cadre de la Liga, le championnat de première division espagnole. Fin de ce journal et merci de l'avoir écouté. Bonne suite de nos programmes. Au revoir. Yeah.